Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, la Cour des comptes, comptable de la République. Bonjour Bruno Botella.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, directeur de la rédaction d'Acteurs Publics. Vous avez publié aux éditions du Moment, c'était en 2015, « Et si on enquêtait sur la Cour des comptes ?» Or, c'est une mine d'or plus ou moins garnie selon les années, mais dans laquelle on trouve toujours quelques pépites, ou bien, si on n'est pas porté sur les métaux rares, quelques os à ronger, le rapport annuel de la Cour des comptes. Les magistrats de la rue Cambon l'ont publié mardi dernier. Les vilains petits canards cette année sont les APL, l'École Polytechnique, les éco-organismes et l'État. La Cour des comptes fait partie des gendarmes de la République ou de ses redresseurs de tort. Elle veille à la bonne utilisation des fonds publics, mais c'est un gendarme qui, depuis fin janvier, n'a plus de tête. Didier Migaud, son premier président depuis 2010, est parti à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. À l'heure où nous enregistrons, on ne sait toujours pas qui va lui succéder. C'est peut-être ce moment d'incertitude qui explique que le rapport 2020 ne semble pas avoir eu l'écho qu'il obtient d'habitude. Il est vrai que l'épidémie de coronavirus a tout emporté sur son passage. C'est en tout cas l'occasion de nous intéresser à la place que tient cette institution deux fois centenaire dans l'architecture française du pouvoir. Les magistrats qui la composent sont-ils toujours absolument neutres ou bien leur travail s'inscrit-il parfois dans un agenda politique? La Cour des comptes, comptable de la République, c'est le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie. Bruno Botella, la publication du rapport annuel de la Cour des comptes, Bruno Botella, c'est le grand moment pour cette Cour.
Ça a toujours été le grand moment, enfin depuis qu'il y a un rapport public annuel. C'était d'ailleurs jusqu'il y a une quinzaine d'années le seul moment où on entendait vraiment parler de la Cour des comptes, puisque ensuite le sous-marin replongeait dans les abysses et remontait tous les ans au mois de février avec ce florilège de gabegie, de gaspillage et d'administration ou opérateurs épinglés.
Et on verra d'ailleurs dans le cours de cette émission que le sous-marin a tendance aujourd'hui à réémerger peut-être davantage. On verra si ça dilue aussi peut-être l'impact que peuvent avoir les rapports de la Cour des comptes. En tout cas, celui qui est le rapport annuel a été publié mardi dernier. Évidemment, on en a parlé dans les journaux d'information.
Attendu ou redouté, le rapport annuel de la Cour des comptes a été dévoilé aujourd'hui. David Boyeri, bonsoir. Et il n'est vraiment pas tendre avec le gouvernement.
Alors non, le message est cinglant. Le déficit se réduit trop peu et trop lentement. Le redressement est même, je cite la Cour, quasiment à l'arrêt. Cette année, les prélèvements vont baisser d'une dizaine de milliards, de l'argent en moins dans les caisses. Alors que du côté des dépenses, il n'y a toujours pas de vraie économie. Le gouvernement ayant de fait renoncé à la réduction des effectifs dans la fonction publique. La Cour calcule que si le déficit va effectivement repasser sous la barre des 3%, c'est essentiellement un artifice comptable, car le CICE, le fameux crédit d'impôt, coûtera deux fois moins cher que l'an dernier. Le reste vient des taux d'intérêt très bas qui mécaniquement font baisser le coût de la dette publique. La Cour des comptes recommande donc à l'État de ne pas repousser ses efforts l'an prochain. Il doit retrouver des marges pour faire face à une récession ou à un choc.
Voilà, c'était un extrait donc du reportage, du compte-rendu que faisait France 3 mardi dernier suite à la publication de ce rapport annuel de la Cour des comptes. Bruno Botella, est-ce que vous retiendriez, vous aussi, comme le fait le plus saillant de ce rapport, ce redressement des finances publiques qui est aujourd'hui quasiment à l'arrêt, c'est ce que dit la Cour?
Ben, la Cour des comptes prévient quand même depuis déjà, même l'an dernier, hein, que le déficit structurel, c'est-à-dire le vrai déficit, ne se réduisait pas de manière formidable, était très mitigé, notamment comme tous les ans, la Cour des comptes est très mitigée aussi sur les prévisions de croissance, en les trouvant souvent trop optimistes. Et donc là, il y a une mise en garde assez sévère de la Cour des comptes. Mais
en même temps, on a l'impression que cette mise en garde, on l'entend chaque année.
Oui, on l'entend chaque année parce que la Cour des comptes en fait se base sur les prévisions du gouvernement, de l'exécutif lui-même. C'est-à-dire que la Cour des comptes vérifie que les engagements que le gouvernement a lui-même fait devant les Français, et notamment dans les lois de finances, hein, lors de l'examen des lois de finances et le vote des lois de finances par le Parlement, eh bien, ces engagements-là sont pris. Donc tous les ans, ils pointent les bons points et les mauvais points.
Ce rapport, je le disais en début d'émission, n'a peut-être pas eu pour l'instant, en tout cas, le retentissement qu'il a les années précédentes. D'abord, est-ce que vous partagez cette appréciation, Bruno Botella? Et si oui, à quoi vous l'attribueriez? Est-ce que peut-être d'abord il faut attendre un petit peu, c'est-à-dire c'est un rapport aussi qui est assez conséquent, il faut prendre le temps d'aller gratter ce qui pourrait être un peu
Alors, le message sur les finances publiques qui constitue une bonne partie du rapport quand même, le message est d'habitude porté par le Premier Président. Donc c'est une voix qui porte, et le Premier Président, il est avant tout le porte-parole de l'institution. Il n'y a pas d'autre porte-parole au sein de cette institution, de cette juridiction. Et donc cette année, comme le poste est vacant, enfin il y a un intérim qui est assuré par la doyenne des présidents de chambre, mais ce n'est qu'un intérim, eh bien il n'y a pas eu, comme d'habitude, la grande conférence de presse qui dure 2 heures, dans laquelle Didier Migaud, encore l'année dernière, attribuait ses bons et ses mauvais points.
Didier Migaud qui est parti donc à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, c'était fin janvier. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de successeur? On attend quoi? Ça vient de l'Élysée, la nomination?
Alors ça vient de l'Élysée, le premier président de la Cour des comptes est nommé par le président de la République en Conseil des ministres. Il faut signaler que cette nomination, contrairement à beaucoup d'autres, eh bien, n'est pas soumise à l'approbation du Parlement. C'est-à-dire que c'est une nomination directe du président de la République, c'est sa décision. Donc on attend, ça fait maintenant quasiment un mois que le poste est vacant. Il faut se souvenir qu'en 2010, au moment de la mort de Philippe Séguin, il avait fallu moins de 2 mois pour nommer un successeur. Mais là, c'était une mort brutale de Philippe Séguin. Or, là, le départ de Didier Migaud était annoncé déjà depuis plusieurs mois.
Bruno Botella, quand on dirige la rédaction d'Acteurs Publics, on a forcément quelques infos. J'ai vu qu'il y avait des noms qui circulaient. Pierre Moscovici, Nicole Belloubet, Éric Kevert.
Alors le nom de Pierre Moscovici circule depuis déjà plus d'un an, puisqu'on savait qu'il allait quitter la Commission européenne à l'automne, et il est lui-même issu de la Cour des comptes. Il est d'ailleurs retourné à la Cour des comptes, il a intégré une des chambres de la Cour des comptes, donc il travaille aujourd'hui comme conseiller maître à la Cour. Le nom de Nicole Belloubet est sorti la semaine dernière. Il y a un précédent aussi, hein, puisqu'un garde des Sceaux, à l'époque, en 1990, Pierre Arpaillan, j'avais été nommé à la Cour des comptes. Il y a un précédent. Il faut voir quand même qu'il y a aussi une limite d'âge. On ne peut pas nommer quelqu'un de 72 ans ou 73 ans. On a vu le nom de Gilles Carrez aussi circuler. Je pense que là, pour des questions d'âge, ce ne sera pas possible de nommer, puisqu'il y a une limite d'âge pour les présidents de la Cour des comptes, qui est de 68 ans à peu près.
Alors, faut rappeler que le président sortant, donc Didier Migaud, issu du Parti Socialiste, avait été nommé par un président de droite, Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça, c'est une règle dans les nominations, Bruno Botella? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a obligation, ou en tout cas, il y a une forme de, peut-être pas d'obligation, mais disons de tradition, que la majorité désigne un premier président de la Chambre de la Cour des comptes qui soit issu de l'opposition, en tout cas, qu'il ne soit pas de la majorité?
Pour la Cour des comptes, ça s'est produit qu'une fois. Il y a une règle, en revanche, qui avait été instaurée, qui était de faire présider la commission des finances de l'Assemblée par quelqu'un de l'opposition. Ça c'est vrai. Pour la Cour des comptes, ça ne s'est produit qu'une fois avec la nomination de Didier Migaud en 2010. Auparavant, Philippe Séguin était un homme politique de droite, et il avait été nommé par Jacques Chirac.
Didier Migaud, Philippe Séguin sont des hommes politiques. Est-ce que là, c'est en tout cas la règle qui est la plus souvent observée, c'est-à-dire on a des premiers présidents qui viennent du monde politique?
Alors, il faut remonter un petit peu en arrière. Le vrai homme politique qui a marqué, qui était très marqué politiquement, et qui avait été nommé à la tête de la Cour des comptes, c'est Pierre Joxe. Voilà. Pierre Joxe avait été nommé en 1993, et il avait déjà derrière lui un parcours de ministre proche de Mitterrand, et donc c'est une personnalité très forte qui était lui-même, il était lui-même issu de la Cour, et donc il était revenu comme premier président après une carrière politique. Après la Cour des comptes, il a été nommé à la tête du Conseil constitutionnel. Et donc, lui a profondément marqué la Cour, l'a profondément transformé, surtout lui a donné une vraie visibilité en notamment insistant sur le rôle de la Cour, le rôle public de la Cour, ses avis, ses rapports, le travail avec le Parlement qu'elle fait, et a poussé l'orientation qu'on voit depuis quelques années de la Cour, plus grande visibilité, et une institution qui est une des rares aujourd'hui qui n'est pas contestée par l'opinion.
autre personnalité forte, vous l'avez évoqué, et autre peut-être transformateur, ça vous allez nous le dire, Philippe Séguin, qui a été donc le premier président de la Cour des comptes de 2004 à 2010. Il était de la même couleur politique, on va dire, que le pouvoir, mais c'est sous sa présidence que va néanmoins être révélée l'affaire dite des sondages de l'Élysée.
Nous n'en avons jamais dit que l'Élysée payait ses sondages à tel journal, ou pas du tout. Nous avons simplement constaté dans les factures, dans les pièces justificatives des factures qui étaient présentées à l'Élysée par le cabinet que nous évoquons, que dans ces pièces justificatives, il y avait des sondages qui s'étaient retrouvés dans les organes de presse. Alors nous nous sommes dit, ben, s'ils sont publiés par les organes de presse, pourquoi les payer aussi ? Il n'y a qu'à attendre la parution du journal. Mais nous n'avons jamais écrit autre chose, hein, qu'on se tienne bien à notre texte. Non, ce que nous avons surtout critiqué, c'est le caractère léonin du contrat qui a été passé, parce qu'en fait, une société privée engager librement une dépense publique sans le moindre contrôle préalable. Et alors là, c'est tout à fait contraire à toutes les règles. Et il a été mis un terme, d'ailleurs, nous en réjouissons à ce système.
Voilà, Philippe Séguin qui était l'invité des Matins de France Culture le 23 juillet 2009. Bruno Botella, peut-être d'abord resituer cette affaire des sondages de l'Élysée. Comment la Cour des comptes se retrouve à traiter cette affaire ? Est-ce qu'elle s'auto-saisit de ce cas ?
Non, elle ne s'auto-saisit pas. Le rapport sur l'Élysée, le contrôle des comptes de l'Élysée, c'est un objet un peu à part à la Cour, et c'est un accord entre Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy, qui vient d'être élu président de la République, et qui veut mettre un peu de transparence dans les comptes de l'Élysée, parce que les comptes de l'Élysée échappent à toute règle de finances publiques. Et donc, il demande à son ami Philippe Séguin, c'est son ami, ils avaient fait campagne ensemble à une époque, ils étaient du même camp, même s'il y a eu des divergences, etc. Et il demande donc à Philippe Séguin de venir contrôler l'Élysée, de faire des recommandations. Et voilà. Et donc, sort ce premier rapport. Et puis la Cour a fait son boulot, quoi. C'est-à-dire que, indépendamment des liens entre le président de la République et le premier président de la Cour des comptes de l'époque, la Cour fait son boulot parce que la Cour, c'est la collégialité. C'est-à-dire que c'est pas un rapporteur dans son coin qui écrit son rapport et qui le publie. Non, y a des rapporteurs, des contre-rapporteurs. Le rapport est adopté. Et donc voilà. Et donc au final, ils ont soulevé cette histoire des sondages, qui a pas fait plaisir à l'Élysée à l'époque, mais qui a quand même accrédité à long terme l'idée que Nicolas Sarkozy avait quand même, sur les comptes de l'Élysée, apporté plus de transparence aux comptes de la présidence de la République.
À la disparition de Philippe Séguin, il y a son prédécesseur François Logereau. Philippe Séguin, il faut rappeler, donc, lorsqu'il disparaît, il est en poste à la Cour des comptes. Et François Logereau, donc son prédécesseur, disait qu'il avait renforcé l'indépendance de la Cour des comptes. Vous diriez, Bruno Botella, en tout cas, que cette indépendance n'est pas toujours allée de soi. Je rappelais le double centenaire de cette Cour des comptes qui a été créée par Napoléon Ier. C'était un organe qui n'avait pas cette autonomie, sans doute, dans premières années.
Napoléon l'a créée à la suite, parce qu'il y avait un organisme depuis le Moyen-Âge qui contrôlait les comptes. Il y avait la Chambre des comptes de Paris qui avait été supprimée pendant la Révolution. Et c'était en gros les assemblées qui avaient récupéré cela, mais ça marchait pas. Et Napoléon a voulu que les comptes soient contrôlés. Il a voulu les contrôler aussi lui-même, avoir un organisme un peu à sa main. Et l'indépendance s'est beaucoup accrue ces dernières décennies grâce aux personnalités aussi, aux personnalités qui ont présidé cette institution, comme André Chandernagor, avec ensuite Pierre Jox, avec Philippe Séguin. On a eu une institution qui a parfois tenu bon face aux pressions politiques.
Il y a quand même un élément structurel aussi qui peut favoriser cette indépendance, Bruno Botella, c'est que le premier président, il n'est pas révocable.
Non. Et la Cour des comptes tient beaucoup à son statut de juridiction parce que les magistrats, le premier président aussi, donc, les magistrats sont inamovibles. Hein, le premier président est certes nommé par le président de la République, mais ensuite il ne peut pas le dénommer. Voilà, il ne peut pas le limoger. Il part uniquement lorsqu'il est atteint par la limite d'âge. Voilà. Et donc, ça lui donne évidemment une indépendance, puisqu'il ne peut pas être évoqué comme un patron d'administration peut l'être à tout moment au Conseil des ministres tous les mercredis.
Alors, le travail de cette Cour des comptes, il consiste notamment à faire des rapports assortis de recommandations. Ces recommandations, est-ce qu'elles sont obligées d'être suivies par ceux qui en font l'objet? Et si elles ne le sont pas, est-ce que cette Cour a un pouvoir de sanction?
Non, la Cour fait des observations, donc ça c'est le constat, et fait, pas toujours, mais quelquefois, souvent, des recommandations. Ces recommandations, la Cour, dans ses statistiques, dit qu'elles sont suivies à 75%. Mais qu'est-ce que la Cour met dans ces 75%? Vous le rappeliez tout à l'heure, sur les finances publiques, l'alerte sur l'endettement, sur le déficit, fait depuis des années. Et on ne peut pas dire que les gouvernements successifs aient écouté forcément la Cour des comptes. Donc là-dessus, non, la Cour ne peut pas imposer à l'exécutif de suivre ses recommandations.
Donc son arme, en tout cas une de ses armes, c'est sans doute la médiatisation de ses constatations et de ses recommandations. Des recommandations qui peuvent parfois être perçues dans le champ politique comme une intrusion qui ne devrait pas exister. Ça a été le cas, par exemple, en 2011, lorsque le rapport annuel de la Cour des comptes va pointer la mauvaise gestion des politiques de sécurité, ce qui ne va pas plaire au ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. À l'époque, donc, c'est Didier Migaud qui est le président, et il va être aidé, soutenu, par un autre membre de la majorité de l'époque, qui n'appartient donc pas au même camp politique que Didier Migaud, Patrick Ollier. Si j'ai cité leurs trois noms, c'est parce qu'on va les entendre dans cet ordre-là.
Je ne dis pas que c'est un rapport politique, mais je dis que c'est un rapport qui est contestable. Nous sommes revenus à un niveau de délinquance qui est inférieur à celui qu'il y avait en 1997. Moi, je refuse cette attitude qui consiste à accepter les critiques sans réagir.
La collégialité est la garante de l'impartialité des travaux de la Cour. Alors, on n'est là ni pour plaire ni pour déplaire. On peut parfois déplaire, ce n'est pas notre problème. Nous constatons, et en tout cas, ne peuvent pas être juges de l'impartialité de la Cour ceux qui font l'objet de nos contrôles.
Monsieur Migaud est un homme honnête, rigoureux et compétent. Et je n'imagine pas une seconde que Monsieur Migaud ce livre a des jeux politiciens là où il est. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout seul. Et que la Cour est effectivement un ensemble de magistrats qui, d'une manière collective, apprécient les efforts à réaliser. Donc c'est un travail honnête qui est fait et rigoureux.
Un reportage de France Inter qui date de 2011. On entendait donc dans l'ordre Claude Guéant, Didier Migaud, Patrick Ollier, Bruno Botella. Est-ce que la critique qu'on entend au tout début, formulée par Claude Guéant, elle est totalement injustifiée? Est-ce que quand on a le pouvoir qui est celui des magistrats de la Cour des comptes, on ne peut pas être tenté parfois de s'immiscer peut-être un peu davantage que ce qui vous est autorisé dans le champ de la politique?
Alors, il faut rappeler le contexte, hein, 2011, c'est-à-dire que la Cour des comptes se permet en quelque sorte de sortir un rapport sur la sécurité qui couvre le champ des années 2000 et qui inclut donc la période durant laquelle Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur et a mené des actions fortes en matière de lutte contre l'insécurité, avec une présence médiatique très forte comme on le sait. Il a ensuite été élu président de la République et voilà donc qu'en 2011, la Cour des comptes, en quelque sorte, dresse le bilan sécuritaire des années Sarkozy, Intérieur et un petit peu le début du mandat du quinquennat. Donc c'est absolument inacceptable pour la majorité de l'époque, surtout qu'on est à moins d'un an de la présidentielle de 2012.
Et ça, ils le savent, les magistrats de la Cour des comptes?
Évidemment que la Cour des comptes le sait, et donc c'est sans doute une erreur de programmation. Ils se sentent attaqués vraiment durement parce qu'il se trouve que ceux qui ont été chargés du rapport, etc., les gens-là qui avaient commencé à travailler du temps déjà de Philippe Séguin, donc qui lui était plutôt à droite. Mais voilà, le mal est fait et il se trouve que la droite est allée débusquer parmi les magistrats et notamment le président de chambre des gens qui étaient plutôt marqués à gauche. Il y avait même un ancien sénateur un ancien sénateur socialiste. Et donc là, c'était une faute impardonnable. Et donc l'Élysée et notamment Claude Guéant a donné pour consigne aux parlementaires de droite de taper le plus fort possible sur la Cour des comptes pour discréditer ce travail qui était honnête, parce qu'il dénonçait la politique du chiffre qui a ensuite été dénoncée plusieurs fois, etc. Mais la Cour a quand même été très marquée par cette affaire-là et en a tiré quelques conséquences, c'est-à-dire de faire attention, de ne pas faire coïncider des rapports trop sensibles avec le calendrier électoral.
Cette polémique, elle intervient quelques temps après une révision constitutionnelle importante, qui est celle de 2008, qui va élargir le champ de compétences de la Cour des comptes, Bruno Botella.
Oui, alors 2008, c'est une étape importante pour la Cour, parce qu'elle réaffirme son positionnement institutionnel. Elle finalement confirme, grave dans le marbre, ce qui était l'évolution de la Cour, c'est-à-dire de la Cour des comptes, historiquement, elle contrôle la régularité des comptes faits par les comptables publics. Bon, aujourd'hui, c'est 10% du travail de la Cour et des chambres régionales des comptes, alors que l'essentiel de ses missions aujourd'hui, c'est faire de l'évaluation des politiques publiques, faire du contrôle de la gestion, contrôler la gestion des organismes publics, d'intervenir beaucoup sur les questions de finances publiques, ce qu'elle ne faisait pas il y a quelques décennies encore. On ne parlait pas de déficit ou de dette pour la Cour. La révision constitutionnelle de 2008 rappelle aussi que la Cour doit, et là aussi pour informer le citoyen. Et fort de cette inscription dans la Constitution, la Cour a, depuis cette époque-là, publié beaucoup plus de rapports, a produit beaucoup plus et en a publié beaucoup plus.
Oui, parce que Bruno Botella, on se focalise sur ce rapport annuel qui est le côté émergé de l'iceberg, mais il y a énormément de rapports qui sont produits chaque année. Est-ce que ça ne dilue pas aussi peut-être l'impact du coup que peuvent avoir ces recommandations et ces avis de la Cour des comptes?
Non, parce que la Cour est sur l'ensemble couvre l'ensemble des politiques publiques. Donc on est sur des sujets extrêmement divers. En quelque sorte, le rapport public annuel, c'est une sorte de best-of des bons rapports de l'année précédente. Il décide que ce sera inséré au rapport public annuel. Mais tout le long de l'année, il y a plusieurs dizaines de rapports sur des politiques publiques qui sont publiés. Il y a aussi une trentaine de référés, qui sont des interpellations très courtes, des rapports très courts, qui sont directement des interpellations du Premier Président au ministre, et qui sont publiés, une trentaine par an de référés. Il y a aussi tous les rendez-vous maintenant qui sont inscrits dans les textes, aussi dans la loi. La Cour des comptes doit aussi régulièrement interpeller sur les finances publiques, avec la remise de rapports. Il y a maintenant un rapport, il y en a même deux maintenant, sur les finances des collectivités locales. Donc il y a des rendez-vous très réguliers. Donc d'une période où, je le disais, la Cour parlait une fois par an, elle parle tout le temps maintenant. Elle parle tout le temps. Alors le risque, effectivement, c'est le risque de saturer un peu l'espace sur les finances publiques, notamment, et peut-être un risque de surchauffe en interne. Et moi, ce que je soulevais dans mon livre lorsque je l'ai sorti, c'est que la Cour avait peur à un moment donné de trop produire, d'aller sur trop de champs qu'elle ne connaissait peut-être pas forcément, au risque de l'accident industriel et d'être pris en flagrant délit de faute, quoi, d'être passé à côté de la plaque.
D'autant, Bruno Botella, que c'est une institution dont la légitimité démocratique est assez faible. Alors, c'est pas la seule, hein. On pourrait aussi mettre dans le même lot le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qui ont de vrais rôles politiques, mais dont les membres ne sont pas élus démocratiquement. Est-ce que cette question de la légitimité de la Cour des comptes à intervenir sur autant de sujets, c'est un sujet de réflexion en interne?
Le sujet de réflexion en interne, c'est pas tant la légitimité que la compétence à intervenir sur tous les termes. C'est pour ça que la Cour a pas mal diversifié ses membres, en fait, ces dernières années, par le biais de ce qu'on appelle des rapporteurs extérieurs. En fait, c'est des gens qui travaillent dans différents ministères, qui arrivent avec leurs compétences, qui intègrent les chambres pour apporter justement ces compétences-là. Il y a des préfets, il y a des scientifiques, on a des ingénieurs, on a, voilà, qui intègrent la Cour pour apporter cette patte technique que des hauts fonctionnaires un peu stéréotypés qu'on a parfois passés par Sciences Po, l'ENA et tout, n'ont pas forcément. Donc ça, c'est très important pour la Cour de diversifier un peu son vivier et mettre sur des rapports parfois très techniques. La Cour des comptes s'est beaucoup exprimé sur le nucléaire, sur des matières scientifiques très pointues qui ne laissent pas la place à des approximations. Et là, elle a besoin de compétences. Donc la question des compétences est essentielle pour la Cour, beaucoup plus que la question de la légitimité, parce qu'on a affaire quand même à des hauts fonctionnaires. Ce sont des hauts fonctionnaires.
Autre question, évidemment, qu'on se pose et qu'on doit vous poser, vous qui avez écrit sur la Cour des comptes, Bruno Botella, pour une institution qui regarde de très près comment les fonds publics sont utilisés, est-ce qu'elle fait ce même travail sur elle-même? C'est-à-dire, est-ce que la Cour des comptes utilise bien les fonds qui lui sont alloués?
Alors, la Cour des comptes, notamment sous Didier Migaud, a été plutôt frugal en moyen public, alors que l'activité a quand même très fortement augmenté. Il y a une tradition quand même d'austérité à la Cour, alors toute relative, hein, on est quand même au Palais Cambon, qui est un joli palais, qui est situé à deux pas de la Concorde, pas très loin des boutiques de luxe de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et c'est un palais qui a été construit il y a un siècle à peu près uniquement pour la Cour des comptes. C'est un bel endroit, mais c'est quand même extrêmement austère, y compris les conditions de travail en interne.
Enfin, tradition austère, est-ce qu'elle remonte à loin ou bien est-ce que c'est quelque chose d'assez récent? Je voudrais vous faire écouter un son, une interview du 5 janvier 1989 sur Antenne 2. Vous allez le reconnaître. À l'époque, celui qui parle est député. Il deviendra quelques années plus tard président de la République.
Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément, je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député.
Bon, vous avez évidemment reconnu François Hollande. Bruno Botella, on fait comment pour envoyer son CV à la Cour des comptes? Ça m'intéresse, moi.
Alors, c'était en 1989 et je crois que c'était dans une émission qui était consacrée à l'époque aux privilèges de la République. C'est pour ça qu'il termine en disant « je serai un privilégié ». C'est pour coller au thème de l'émission. Mais ça a beaucoup changé depuis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Ça, ce n'est plus possible à la Cour. C'est-à-dire que... Allez, même quelqu'un comme Pierre Moscovici, vrai politique, un peu de la génération de François Hollande, qui est revenu à la Cour, là aujourd'hui, il bosse. Il a intégré une chambre et il bosse vraiment.
Donc, mais j'aime allez, beaucoup le même quelqu'un comme
voilà.
Pierre Moscovici.
Non, mais je dis même Pierre Moscovici parce que il a la réputation quand même de n'être que passé à la Cour.
Merci beaucoup en tout cas Bruno Botella de nous avoir éclairé sur cette institution. Et si on enquêtait sur la Cour des comptes, je renvoie donc à votre livre que vous avez publié aux éditions du Moment. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Romain Masson avec la prise de son Xavier Lévesque. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. À 12h45, vous retrouverez la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Je vous donne rendez-vous lundi pour ma part pour la transition dans les matins de France Culture et dans un instant, le journal de 12h30.